Donc on en est ce matin au quatrième chapitre du livre de Daniel et on va le lire ensemble. Qu'est-ce que nous décrit ce chapitre? En fait, il nous décrit une histoire que nous connaissons, c'est l'histoire des hommes, hein, l'histoire humaine. Daniel chapitre 4. Nebuchadnetsar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnetsar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit, pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnetsar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, et que son explication soit pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. « On te chassera du milieu des hommes. » Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnetsar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel « Apprends, roi Nebuchadnetsar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnetsar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnetsar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dans toutes les œuvres, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Nebuchadnetsar donc nous raconte d'une manière rétrospective ce qu'il a vécu. Il a fait une expérience avec l'Éternel. On peut dire que c'est même l'expérience de sa vie avec l'Éternel. C'est quelque chose qu'il ne pouvait jamais oublier et il nous le raconte. Verset 2, on peut le relire. « Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. » Et si Nebuchadnetsar, c'était le monarque le plus grand de toute la terre à l'époque, en son temps, il va être transformé par cette expérience. Que dit-il ici? Quels sont les mots qu'il emploie? Il parle du Dieu suprême, le Dieu très haut, donc sous-entendu. Il reconnaît sa grandeur, sa puissance. Ensuite, il parle de règne. Un règne éternel. Il savait ce que c'était que régner. Il était roi. Mais il a longtemps cru que le règne lui appartenait. Mais là, ça y est, eh bien, il a pris conscience. Le règne appartient à Dieu. Il est éternel pour Dieu. Et puis, il parle également de domination. Lui qui dominait sur le monde connu et qui s'étendait de plus en plus. Voilà que soudain, il reconnaît que la domination, elle vient au-dessus de lui. Elle est au-dessus de lui. Et cette histoire nous montre que Dieu est plein de sagesse, qui connaît aussi les cœurs. On peut se dire, qu'y avait-il à espérer d'un roi si orgueilleux, si arrogant, si amnésique? Amnésique des bontés de Dieu. Personne ne pouvait s'attendre à un tel changement. Et on voit que Dieu eh bien, a changé cet homme et l'a conduit à devenir quelqu'un d'humble, avec de l'intelligence, de la sagesse. Il lui a fait retrouver la raison. Dieu lui a fait comprendre qui était Dieu et qui Nebuchadnetsar était pour lui-même, qu'il comprenne qui il était. Et au travers de cette histoire, on peut tirer des leçons. Il y a des étapes dans la vie, il y a des étapes dans le récit. Il y a l'étape des signes, il y a celle de l'avertissement, il y a celle du jugement. Et finalement, eh bien, il peut y avoir l'étape de la restauration, comme nous le voyons dans ce texte. Alors d'abord, l'étape des signes. Il est touchant que Nebuchadnetsar dise « Il m'a semblé bon de faire connaître les signes. » Parce que justement, on peut dire que le roi n'a pas été attentif aux signes, parce qu'il a eu des signes, il a vécu des choses. Il y a un comportement parental qu'on peut réprouver quand on le voit, c'est celui qui consiste à donner une gifle rapidement, voilà, ça part hein, comme une fusée, avant que l'enfant ait même compris ce qui lui arrivait et pourquoi, il ne sait pas, voilà, simplement parce que, eh bien, voilà, ça n'allait pas, énervé ou caractériel, et hop, c'est parti comme ça. Mais on voit que Dieu ne ressemble pas à ça. Dieu n'agit pas comme cela. Il ne frappe pas comme ça d'une manière subite, sans crier gare. Il y a toujours des signes précurseurs. Il y a des choses qui arrivent avant. On peut dire que chaque action de Dieu est pesée, mesurée, et elle arrive après beaucoup de signes, beaucoup d'interventions de sa part. Et on peut dire, le monde aujourd'hui qui est corrompu, eh ben, c'en est la preuve. Les hommes pêchent encore, et puis le jugement ne semble pas venir. Il ne tombe pas. Pour certains, il semble que Dieu ne fait rien. Mais ce n'est pas que Dieu ne fait rien, mais il donne des signes, et il patiente, hein, et il prévient. Dieu explique toujours avant d'intervenir. Il faut se souvenir de ça, il explique hein, avant d'intervenir. Quand Adam et Ève ont reçu l'ordre de ne pas manger l'arbre, Dieu a dit, si tu manges, tu mourras. Dieu lui a dit, voilà ce qui va se passer si tu ne fais pas ce que je te dis. Quand il y a eu le déluge avec ce jugement qui se préparait, il est parlé de Noé, prédicateur de justice. Et il y a eu tout ce temps de la construction de l'arche qui était long, et où eh bien, il était prédicateur de justice, donc eh bien, il prêchait la justice de Dieu. La porte était ouverte dans l'arche. Donc il y a eu un temps, Dieu prévenait. Lorsque Dieu a donné les commandements à Israël, qu'a-t-il fait? Il les a prévenus. À la fin du livre du Deutéronome, nous lisons « Si tu obéis, voici les bénédictions qui seront sur toi. Si tu désobéis, voici les malédictions qui seront sur toi. » Et Israël a vécu beaucoup de signes, beaucoup de prophètes, beaucoup de messages qui sont venus avant qu'ils ne vivent des jugements. Et aujourd'hui, le monde est prévenu de ce que Dieu va faire. Il suffit de lire l'Apocalypse. Et on prend la mesure du jugement qui est en train de se préparer sur les pécheurs. Et celui qui s'y intéresse, eh bien, il va aussi prendre garde aux signes. On peut tout mettre sur le dos du réchauffement climatique en disant « bon, c'est normal, c'est naturel, etc. » Mais Dieu montre des choses au travers des cataclysmes, des tremblements de terre. À la fin de l'Apocalypse, il est dit « que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, qui veut se souiller, ben qu'il se souille encore. Mais que celui qui pratique la justice, hein, pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » C'est Jésus qui parle, qui dit finalement, mais que chacun fasse comme il le veut. Allez-y. Mais qui sache que je viens bientôt et qu'à la fin, il y a la rétribution. Et personne ne pourra dire, ah ben, j'ai rien vu venir. Il est responsable. Et Nebuchadnezzar, il a eu ses signes. Il a eu un premier signe avec cette statue représentant les royaumes et lui-même étant la tête tout en haut. Il a reçu l'interprétation du songe par Daniel, qui connaissait le Dieu très haut. Et il a même laissé entendre que, j'ouvre les yeux, oui c'est vrai, c'est le Dieu suprême. Et pourtant. Ensuite, il a eu un second signe avec le miracle de la fournaise, où là, il a vu un miracle de Dieu devant ses yeux. Incroyable. Et on peut dire, là, il a encore un signe, mais c'est déjà bien avancé, hein. C'est déjà bien avancé. Il voit cet arbre grand et fort qui cachait eh bien, toutes les bêtes des champs qui se voyaient jusqu'à l'extrémité de la terre. Et soudain, il entend cette voix, versets 14 à 16. « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Et même si le songe nous parle d'un arbre, il nous parle aussi clairement d'un homme. Il y a l'illustration ici d'un homme, puisqu'il parle d'un cœur d'homme qui lui est ôté, un cœur de bête qui lui est donné. Et peut-être que Nebuchadnezzar entrevoyait son jugement. C'est pour ça qu'il était angoissé, refusant d'y croire, mais en même temps confronté à ce songe. Et il faut prendre garde aux signes que Dieu permet dans nos vies. Quand quelque chose arrive, c'est rarement d'une manière d'un seul coup comme cela. Dieu prévient, Dieu parle, Dieu se manifeste. Et il nous lance sans cesse des appels à la foi, des appels à l'obéissance, à la fidélité. Et libre à nous d'écouter, de négliger d'écouter. Les hommes d'aujourd'hui négligent d'écouter. Ils ne prennent pas garde aux signes de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent sans en tenir compte. Est-ce que Dieu vous a montré quelque chose que vous ne devriez pas faire? Ou il vous a montré quelque chose que vous devriez faire? Est-ce qu'il vous ôte la paix? Est-ce qu'il vous trouble? Est-ce que ça ne va pas? Vous savez que ça ne va pas. Vous êtes mal à l'aise. Est-ce qu'il vous l'a montré à plusieurs reprises dans les Écritures? Vous lisez, puis à chaque fois, c'est toujours la même direction qui est donnée. Ou bien est-ce que vous l'avez entendu de plusieurs personnes qui marchent avec le Seigneur, qui aiment le Seigneur, une fois, deux fois, d'une autre source? Si c'est le cas, eh bien, il faut voir les signaux. Attention, Dieu parle. Aujourd'hui, avec les caméras qui sont un petit peu partout, on commence à voir plein de choses qu'on ne voyait pas avant. Ils mettent, je crois beaucoup aux États-Unis, des caméras à l'endroit des passages à niveau. Il y a plein de passages à niveau où il n'y a même pas les barrières. Et combien il y a de vidéos maintenant où on voit des camions, des voitures, il y a les signaux, hein, ça clignote, stop. Il y a parfois même la barrière qui est baissée et des poids lourds qui essayent de passer malgré tout et qui sont emportés par des trains. Mais il y a plein de vidéos. Pourtant, c'était clairement stop, stop, arrêtez-vous. Et on peut être comme cela, hein, avoir les signaux et puis continuer malgré tout. S'il y a des signaux qui disent non, si c'est quelque chose de répété, alors eh bien, faut s'arrêter, faut pas insister. Et puis il y a cet avertissement, on pourrait dire c'est la fin là. Daniel va donner l'interprétation du songe. Quand il comprend ce que cela signifie, il est stupéfait, il est sans voix. Alors il va dire au roi, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, ton explication pour tes adversaires. » Parce qu'il comprend qu'il va devoir expliquer ça au roi de toute la terre, hein, au souverain. Et Daniel lui donne l'interprétation. On peut relire 24 à 27. « Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. » On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera, quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Et c'est le dernier signe avec l'avertissement qui le suit. Les chaînes d'airain dont il est parlé, ça nous parle du jugement. Quand il y a l'airain dans la Bible, eh bien c'est un jugement. Et donc il y a ce jugement-là imminent qui va arriver. Mais Daniel, toutefois, lui dit, mets un terme à tes péchés, pratique la justice. Quand Caïn et Abel ont offert une offrande à l'Éternel, Abel a présenté son offrande, hein, le premier-né de son troupeau, image donc de Jésus-Christ, hein, l'agneau de Dieu, l'Éternel a agréé son offrande. Caïn a présenté sa corbeille de fruits, qui était tout son travail, tous ses efforts pour essayer de présenter, mais qui représentait aussi ses œuvres souillées, parce que eh bien c'était ses œuvres qui étaient dans cette corbeille de fruits. Et Dieu n'agrée pas son offrande. Alors Caïn fut irrité, et Dieu lui dit, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Et là, c'était la croisée des chemins. Tu as un choix. Prends une direction. L'une menant vers la mort, l'une menant vers la vie. Et c'est toujours le cas pour nous aujourd'hui. On n'est pas programmé à une obéissance parfaite, programmé à une fidélité parfaite ou programmé à une désobéissance et programmé à une infidélité. Mais on est sur un chemin et on doit se déterminer, on doit faire un choix. Et Dieu nous aide. Il est là pour nous pousser et à prendre la bonne direction, à faire les bons choix. Et selon les choix que nous faisons, cela détermine ce que sera le chemin pour nous. À chaque fois, les chemins peuvent être différents. Faire des bons choix, ça nous conduit dans un chemin qui est béni, qui peut être escarpé, qui peut être difficile, mais un chemin où Dieu est là. Il y a la bénédiction de l'Éternel. Et faire les mauvais choix, eh bien, ça nous conduit dans un chemin qui est douloureux, qui est pénible. Et dans un chemin, on se dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de rater quelque chose ? Alors Daniel va faire connaître ses péchés à Nebuchadnetsar. Le roi de Babylone est injuste. Il commet de nombreux péchés en ne pratiquant pas la justice. Il apparemment profite de cette position d'autorité que Dieu lui a conférée, puisqu'il est écrit dans Romains chapitre 13 qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et toute autorité qui existe ont été instituées de Dieu. Donc Dieu a placé Nebuchadnetsar dans cette position, mais lui, il agit d'une manière inique. Donc il est doublement coupable, coupable de péché, parce que tout le monde est coupable de péché, mais lui, il est coupable de péché en ayant cette position d'autorité que Dieu lui a conférée. Daniel sous-entend aussi qu'il n'use pas de compassion envers les malheureux. Il est dans l'abondance et il écrase le faible. Et puis dans la suite du passage, on voit aussi un homme qui est orgueilleux, colérique. Hein. Alors, eh bien, Daniel lui donne cet avertissement. Il lui dit « Change et ton bonheur pourra se prolonger. » Ça, c'est la condition à son bonheur. Un changement, une repentance. Et Dieu nous montre que, encore une fois, il ne fait rien à la légère. Il ne fait rien comme ça d'un seul coup. Hein. Verset 29, il est dit « Au bout de 12 mois ». Dieu a laissé 12 mois passer où, eh bien, il pouvait prendre conscience de ce qui n'allait pas. Il pouvait faire demi-tour, il pouvait pratiquer la justice. Dieu a attendu 12 mois pour agir, pour intervenir, mais rien n'a changé. Verset 30, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Et on est ici à l'étape du jugement, ça y est, c'est pleinement consommé. Vient le temps où Dieu décide d'agir, de faire cesser le péché. Et dans ce verset 30, on voit toute l'arrogance du roi, il se regarde lui-même, se gargarise de sa grandeur, de sa puissance, de sa force, de sa gloire, de sa magnificence. Comme il est allé de conquête en conquête, que rien n'a pu lui résister, eh bien ça l'a fait monter, il jubile de son succès. Et au bout de 12 mois, rien n'a changé de son comportement. Il n'a pas changé de direction, toujours autant orgueilleux. Alors, versets 31 à 32, « La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnetsar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. » Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnetsar, etc. Et on ne sait pas par quel coup d'État, par quelle intervention, mais soudain, son royaume rejette le monarque, et Nebuchadnetsar, qui était dans l'opulence, se retrouve à être dans un champ, comme une bête. On dit parfois que l'orgueil rend fou, mais là, c'était littéral dans son cas. son orgueil l'a rendu fou. Nebuchadnezzar dort dehors, se nourrit de l'herbe. Et ça dure 7 ans. Il parle de 7 temps, qui sont 7 années, où ses cheveux vont pousser, ses ongles vont pousser. Il se prend pour un bœuf. J'ai lu quelque part en cherchant qu'on appelait ça lycanthropie clinique. Donc la lycanthropie, c'est l'idée du loup-garou, de quelqu'un qui se prend pour un loup, mais par extension, c'est quelqu'un qui se prend pour un animal. Donc voilà, il perd la raison et puis d'un seul coup, il a l'impression qu'il est un animal. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Et Dieu nous montre ici qu'il y a une règle, elle était là au début, elle continue pour tous les siècles, Dieu l'applique toujours. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et c'est quelque chose qui est constant, ça a lieu tout le temps. Et si l'abaissement du roi Nebuchadnezzar est si fort, si son humiliation elle est si grande, c'est qu'elle est proportionnelle à son élévation. Il s'était élevé si haut, eh bien qu'il fallait un abaissement qui soit si bas. Et on connaît un autre homme qui s'est élevé comme cela dans les Actes, il s'agit d'Hérode. Vous vous souvenez de cette histoire? Si vous voulez le prendre, vous pouvez, c'est Actes 12, verset 21. Il est dit « À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. » C'est terrible, mais on a une attitude ici semblable à celle de Nebuchadnezzar. On voit que Hérode usurpe la place de Dieu, il se prend pour Dieu, il ne rend pas gloire à Dieu. Il se glorifie de ce qu'il est ou de ce qu'il pense être. Et on ne connaît pas toute l'histoire, mais on peut être assuré que Hérode a dû avoir des signes aussi précurseurs dans sa vie qui lui montraient que, il fallait qu'il change d'attitude. Mais il n'a pas pris garde, il n'a pas répondu jusqu'à ce que le jugement vienne le frapper. À moins d'un jugement aussi radical, quand Dieu châtie, quand Dieu reprend, abaisse, c'est toujours pour un but et le but c'est la repentance. Dieu veut conduire à la repentance. Dans l'histoire d'Israël, on voit Israël beaucoup souffrir, mais Israël est un type même du peuple qui ne fait pas attention aux signes. Ils ont des signes, des signes, des signes, des signes, ils ne font pas attention. Ils ont été arrogants, suffisants, mais si Israël a souffert, s'il a déjà été jugé de nombreuses fois, s'il va encore souffrir, c'est parce que Dieu veut vraiment les conduire à la repentance. Et on lit un verset intéressant dans Sophonie, je vais vous le lire. C'est Sophonie 3:12 qui dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Et il y a une souffrance parfois qui est dans l'abaissement, qui est dans l'humiliation, mais qui est nécessaire pour transformer l'homme, afin que l'homme devienne humble et petit. Si Dieu frappe, si Dieu châtie, si Dieu éprouve du fait du péché, le but c'est la repentance et amener à être humble et petit. Et ça nous conduit à la quatrième étape. Finalement, il peut y avoir l'étape de la restauration. Et c'est bien là le plan de Dieu qu'un travail, qu'un brisement s'opère pour conduire vers la restauration. Regardez verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Quel verset magnifique. Je levai vers le ciel et la raison me revint. Et ici, c'est la solution, le dénouement des cauchemars les plus terribles. Nebuchadnezzar a pour la première fois réellement, on peut dire, levé les yeux vers le ciel. Il s'est tourné vers Yahvé, vers l'Éternel, le vrai Dieu, le Créateur. Et quand on ne sait plus, quand on est dans l'impasse, quand on a l'impression qu'on a raté, qu'on a gâché, qu'on s'est égaré, ou qu'on a conscience qu'on subit l'effet de nos mauvais choix, nos mauvaises décisions, eh bien il est temps de lever les yeux vers le ciel. Et cet acte symbolique, il est déterminant. C'est le fait de se tourner vers le Seigneur, de chercher le Seigneur, de prendre du temps avec lui, qui nous fait retrouver la raison. Trop souvent, quand ça ne va pas, on veut trouver la solution tout seul, on veut s'en sortir tout seul, on s'agite dans tous les sens, on essaye de se dépatouiller de ces difficultés, comment je vais pouvoir faire? On a perdu le discernement, on ne sait plus, on n'a pas la compréhension, mais la raison, le discernement, la compréhension, la sagesse, elle ne se trouve pas en nous-mêmes, mais elle se trouve dans le Seigneur. Et c'est quand justement on lève les yeux vers lui qu'alors, eh bien, le discernement, la sagesse, l'inspiration, la raison nous est donnée. C'est là quand on passe du temps avec le Seigneur qu'alors on peut avoir du discernement. Regardez, Nebuchadnezzar nous dit « J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Et si Nebuchadnezzar a perdu la raison quand il s'est glorifié lui-même, il a retrouvé la raison quand il a glorifié Dieu. Voilà. Il s'est tourné vers lui, non pas à moi, Éternel, non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Et à ce moment-là, il a retrouvé la raison. Et on a là le secret d'une raison saine, d'une raison qui est équilibrée, c'est de reconnaître que tout vient de Dieu, que c'est lui qui est glorieux et que c'est lui qui doit être élevé. Donc le roi humilié va parler de sa domination, la domination de Dieu, mais plus de la sienne. Il ne domine plus. Il voit maintenant que c'est l'Éternel qui règne, c'est lui qui est le Très-Haut. Je lisais les notes dans Scofield et je trouvais intéressant, j'aimerais vous les relever. D'abord, ça nous parle de la domination. La domination de Dieu, d'abord elle s'exerce sur toute chose. Nebuchadnezzar dit... Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Dieu règne et il règne comme il l'entend sur toutes ses créatures et toute la création. Ensuite, sa domination ne s'interrompt jamais. Elle est éternelle. Il y a la domination ou prétendue domination des hommes, elle est éphémère, mais celle de Dieu, elle dure pour toujours. Et puis sa domination ne manque jamais ses objectifs. L'homme est libre de faire des choix, et nous devons faire des choix, mais Dieu est tout puissant pour atteindre quand même sa volonté, malgré les choix de l'homme. Ainsi, le chemin de l'homme peut parfois être différent hein, en fonction de ses choix, mais Dieu atteindra quand même ses objectifs. Il fera quand même sa volonté, quel que soit le choix de l'homme, avec ou sans nous. Il fera sa volonté. Et puis pour finir, sa domination s'exerce essentiellement par sa providence. Ça signifie qu'il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Providence, ça vient d'un mot latin, providentia, pro, en avant, et videre, voir. Voir en avant. Dieu voit en avant, Dieu sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Alors, eh bien, il agit avec toute cette connaissance du futur, hein. Connaissance de nos choix, de nos actions, de nos décisions. Et on voit le songe donc qui présentait un tronc qui était coupé, mais encore avec des racines. Et c'est là le signe de la restauration, sitôt qu'il se serait repenti de son péché. Et du fait de sa prise de conscience, de sa repentance, de son désir de rendre gloire à l'Éternel, Nebuchadnezzar est restauré dans son royaume. Ses grands, ses conseillers le rappellent, voyant qu'ils ont besoin de lui. Et regardez quelle est la conclusion qu'il donne à son expérience, verset 37. Il dit « Maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Et en lisant ce verset, je me disais, on pourrait mettre là, dans les paroles de Nebuchadnezzar, celles que David a prononcées dans son psaume, psaume 131, quand il a dit, cantique des degrés de David, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Et voilà, Nebuchadnezzar, là, ça y est, il a reconnu qui il était. Il a repris sa place là où il faut devant l'Éternel. Alors, eh bien, comme il est humble et petit, eh bien, Dieu peut le restaurer. Et Dieu peut élever, mais il faut prendre garde dans l'élévation parce que Dieu peut aussi abaisser. Il est dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et c'est merveilleux de voir aussi comment Dieu peut changer un homme. Un homme qui est orgueilleux, Dieu merci, il peut le changer. Il peut mettre son humilité précieuse qui vient de lui. Alors, eh bien, soyons attentifs à ces signes. Tendons l'oreille, pratiquons la justice et veillons à bien lui rendre toute la gloire dans toutes ses œuvres. On va s'incliner dans la prière.